franceinter.fr.
Le best-of de la tête au carré. Lundi, les particules et le boson de Higgs avec les physiciens Marco Zito et Yves Sacquin.
Alors d'abord, il y a les particules qui forment la matière dont sont composées, et donc on les appelle les fermions. Donc on trouve par exemple les quarks up, les quarks down qui forment protons et neutrons. Il y a d'autres quarks un peu plus exotiques, mais je vais pas les...
Vous nous épargnez.
Je vous épargne.
Merci.
Mais il y a aussi l'électron, bien sûr, donc qui avec donc protons et neutrons forment les atomes, donc c'est peut-être bien connu. Mais l'électron lui-même a des cousins plus lourds, donc que je vous épargne aussi, mais qui ont été un peu un choc pour les physiciens parce que quand ils les ont découverts, ils s'attendaient pas du tout de découvrir d'autres particules. Et finalement, il y a les neutrinos qui me tiennent à cœur.
C'est
donc
ça.
Tout ça, ça forme, disons, c'est les fermions, donc ça forme la matière, on peut dire. Après, il y a des particules, donc c'est les bosons, qui sont les portent les interactions. Donc l'interaction électromagnétique, donc c'est les photons. Il y a l'interaction forte, c'est les gluons. Et plus récemment, on a découvert des cousins du photon, donc c'est les bosons WZ, qui portent l'interaction faible.
Bon.
Voilà. Et au milieu de tout ça, cerise sur les gâteaux, découverte en 2012,
le boson de Higgs. Hein, évidemment. Voilà. Pourquoi est-ce que ça a mis en émoi toute la communauté des physiciens, Yves Sacquin, qu'on comprenne bien ce que ça représente, cette particule-là, voilà, le boson de Higgs, soit, mais pour vous, c'était quand même la quête du Graal, hein?
On l'a présenté comme ça, et c'est vrai qu'il y avait un peu cet aspect-là.
Ça a été survendu?
Non, je dirais pas que ça a été survendu. Certaines personnes ont voulu en faire la particule de Dieu, mais ça c'était une erreur de traduction.
Surtout en science.
Et surtout en science,
ça la fout mal.
On ne s'aventure pas dans ce terrain-là.
C'est ça.
Mais c'est vrai qu'on avait un modèle standard des particules, qu'on avait testé depuis 20 ans, 30 ans, dans des moindres recoins, on ne trouvait pas de défauts, on ne trouvait pas d'écart statistique, d'écart de mesure qui ne soit pas en accord avec ça. Il restait une chose dans ce modèle standard qui n'était pas encore découverte, c'était le boson de Higgs. Donc ça a été très long pour le trouver.
Ouais.
Le LEP, dans les années 90, a fait des expériences, ne l'a pas trouvé parce qu'il n'avait pas assez d'énergie, mais il a défini une fenêtre dans laquelle il devait se trouver, et le LHC l'a trouvé dans cette fenêtre.
Mais dans, ça a été très long à mettre en évidence. Dans ce contexte, comment on a pu imaginer qu'il pouvait exister, justement?
Il venait dans nos équations. Donc, à ce moment-là,
il
fallait absolument voir s'il existe, parce que sinon, on peut pas savoir si l'équation est vraie ou pas.
Mardi, santé et climat, comment se protéger des moustiques et autres insectes pathogènes avec Robert Barouki.
C'est clair qu'il y a de plus en plus de moustiques porteurs de pathogènes qui remontent petit à petit vers le nord. On voit bien ça quand on regarde certaines cartes, vous savez, où il y a des au cours des ans,
avance,
on voit que ça avance, ça remonte vers le nord. C'est parce que l'écosystème devient favorable pour ces moustiques. Ça ne suffit pas tout de suite, immédiatement, pour provoquer, disons, les pathologies. Il y a d'autres conditions qui sont nécessaires, mais on a vu déjà apparaître dans le Midi quelques cas endogènes, de pigeons de moustiques qui ont entraîné du chikungunya. Donc, dans le Midi de la France, il y a eu aussi une épidémie en Italie. Comment s'en protéger comme on se protège habituellement contre les moustiques? Mais ça pose un vrai problème, parce que si un jour on nous propose des pesticides à grande échelle, ça nous posera un énorme problème quand on s'intéresse à la toxicité des pesticides. Donc, il est vraiment important de prévenir cette augmentation des températures.
Hein. Bruno Housset.
Sur l'île de La Réunion, ils ont beaucoup d'expérience dans ce domaine. Hein. Il faut donc limiter les eaux stagnantes le plus possible, et effectivement essayer de limiter aussi l'usage de produits qui pourraient être toxiques pour la santé humaine.
Il faut parler de ces maladies vectorielles transmises par les animaux et des insectes qui se multiplient. Question de Damien.
Oui, il a tout à fait raison. Et ça, c'est une partie quand même assez importante, un gros morceau des effets du changement climatique sur la santé, surtout dans nos régions, mais pas uniquement. Vous avez des zones, par exemple, en Afrique, qui n'avaient pas de paludisme et qui petit à petit commencent à en avoir parce que ça devient de plus en plus chaud, un peu humide, et donc ça favorise le développement du paludisme. Donc ça concerne le monde entier, mais dans nos contrées en particulier.
Vous parliez des cartes.
Il y a des efforts de vaccins aussi.
Hein.
Il y a des efforts internationaux qui sont très difficiles, parce que c'est quand même une maladie qui tue énormément de personnes dans le monde, donc c'est un vrai problème sérieux. Il n'y avait pas assez sans doute de travail dessus, mais là maintenant il y a des efforts à l'échelle internationale qui sont faits pour essayer de trouver un vaccin contre le paludisme. C'est essentiel.
Vous vous parliez tout à l'heure des cartes géographiques. Hein. C'est vrai qu'elles se redessinent en permanence, justement. Plus les années avancent et plus on voit justement les zones évoluer.
On voit ça sur la météo, on voit ça aussi sur les pathologies. Hein. Mmh. Vous savez, si vous regardez la carte de, prenons un exemple peut-être un peu différent, l'obésité par exemple, ou les maladies métaboliques ou autres, vous voyez une augmentation quasi épidémique de certaines pathologies depuis quelques dizaines d'années, c'est assez frappant.
Mercredi, que faire quand on craque face à des enfants très agités? La réponse d'Isabelle Filiosa.
Ce que les neurosciences nous montrent aussi, c'est que nos expériences d'enfants vont marquer durablement notre cerveau. Le souci, c'est que cette maman, comme nombre de parents, nous avons, lorsque nous étions enfants, été envoyés au coin. Nos propres émotions, nous n'avons pas su les réguler. Et donc, du coup, nous n'avons pas reçu l'éducation émotionnelle. Et ce qui se passe, c'est que chaque fois que nous avons été rejetés par nos parents, chaque fois que nous avons été envoyés au coin dans notre chambre accompagnée alors que nous avions une émotion, eh bien, dans le cerveau, ce qui se passe, c'est réduction du nombre de récepteurs à ocytocine. On ne construit pas le cerveau orbitofrontal qui permet de réguler les impulsions. Et en plus, on a une amygdale hyperactive. Et donc, ce cocktail va venir jusque notre âge adulte, et à l'âge adulte, lorsque nos enfants sautent sur les fauteuils, font un petit peu trop de débordement, paf, ça nous fait disjoncter.
L'ocytocine, ça sert à quoi alors concrètement ?
L'ocytocine, c'est l'hormone qui nous permet plein de choses. Elle nous permet de tempérer, elle nous permet de nous calmer, de calmer le stress, elle permet, c'est l'hormone de l'amour, c'est l'hormone du lien, c'est l'hormone qui nous permet de prendre soin, elle nous permet de sentir qu'est-ce qui se passe pour autrui.
Et mais donc, pour aider concrètement cette maman, il n'y a pas un spray d'ocytocine qui pourrait l'aider là en
moment
de la crise ?
Il y en a en vente quelques-uns, mais bon,
c'est vrai, mais
ça
bon.
Serait une très bonne idée. Donc le spray d'ocytocine, c'est simplement prendre l'enfant dans les bras. Il suffit de 20 secondes où je serre mon enfant dans les bras, pas pour le contenir durement, mais simplement avec tendresse, et du coup je me nourris d'ocytocine. C'est biologique. Automatiquement, même si mes circuits ont été un peu détruits dans mon enfance, si j'arrive, mais c'est très dur de le faire, si j'arrive à tenir mon enfant dans les bras, petit à petit, on reconstruit les récepteurs à ocytocine.
Si j'y arrive, parce qu'il y a beaucoup de parents qui nous entendent, qui vont se dire « j'ai fait ça et ça n'a pas du tout fonctionné ».
Mais si ça fonctionne, si on arrive à le faire, ça fonctionne. Et c'est ça la magie, parce que comme c'est scientifique, ça marche.
Là, vous dites magie et scientifique dans la même phrase.
Et mais oui.
Là, dites donc.
La science est magique. C'est fascinant.
Non, c'est pas magique.
C'est fascinant.
C'est pas magique, c'est scientifique. Jeudi, quels sont les liens entre la guerre, la science et les mathématiques à l'époque de la Renaissance, avec Dominique Pestre et Stéphane Van Damme.
Les mathématiques, c'est pas le sommet des savoirs, c'est le dernier rang des savoirs, c'est le septième rang. Et c'est les gens qui s'occupent des choses pratiques. Les mathématiciens, ça s'occupe de l'artillerie, ça s'occupe de l'optique. Fortifications, ça s'occupe de l'optique. Ça s'occupe, voilà. Ils font toutes ces choses concrètes, on pourrait dire, de la maîtrise de l'espace. Ce qui permet de se déplacer dans l'espace.
Donc c'est hyper pratique, quoi.
Oui, sur les maths, c'est hyper pratique.
Lié au monde des ingénieurs.
Hein. Oui, c'est en fait le monde des ingénieurs. Oui, c'est le monde des ingénieurs. Et donc, pour cette raison, comme ce sont ceux qui savent contrôler l'espace, anticiper l'espace. Vous imaginez bien que pour la guerre, c'est absolument central. C'est ceux qui vous sont utiles pour attaquer une place forte, pour la défendre, pour cartographier un territoire. Et donc ça, c'est les mathématiciens qui font ce genre de travail. Si vous avez une science qui est pratiquement opérationnelle, on va dire, si c'est utile, que vous pouvez faire quelque chose avec, la physique le fera, mais beaucoup plus tard. Elle le fera seulement au 19e siècle. Elle ne sait pas le faire à l'époque. Ça sert à rien. La physique dans ce sens, hein, si je peux me permettre cette expression. Elle sert à rien au 18e, au 16e, au 17e. Par contre, ces mathématiciens pratiques qui construisent les instruments, c'est eux qui fabriquent les instruments dont parle Stéphane. C'est eux qui font. Alors donc, ils ont une capacité d'offrir à tout pouvoir un moyen de contrôle sur le monde. Évidemment, quand vous faites la guerre, c'est tout naturel.
Donc c'est l'art de la guerre qui est modifié aussi?
Par l'apport
des mathématiques.
Disons, l'art de la guerre est d'abord modifié par un certain nombre de changements techniques, la poudre, etc. Mais en même temps, pour s'adapter à ça, ces mathématiciens vont être ceux qui vont aider les différents types d'armées, de corps d'armées, à s'adapter à cette nouvelle situation. Oui.
Stéphane Van Damme.
Oui, alors on pourrait dire aussi que ça nourrit d'une certaine manière aussi le bagage des militaires. C'est-à-dire que l'enseignement des sciences fait partie du bagage de l'officier hein, sur le terrain. Il sait prendre des mesures, il sait calculer, il a intégré une partie de ses savoirs, de la balistique, etc. Donc il y a un va-et-vient, si vous voulez, entre c'est là où il n'y a pas d'étanchéité, si j'ose dire, entre ces mondes.
La première grande école de sciences au milieu du 18e, c'est l'école du génie de Mézières. Voilà, elle est à Mézières, c'est l'école du génie. C'est là où est Monge, où sont tous les grands mathématiciens et physiciens français de l'époque. C'est la grande école de sciences. C'est une école militaire. D'ailleurs, l'école polytechnique, si vous vous en souvenez, elle est créée en 1794 comme école militaire, puisqu'elle l'est toujours.
Retrouvez l'intégralité des émissions en podcast sur franceinter.fr à la page de La Tête au Carré.